Jean Lulvès, Calais, sous la domination anglaise, 1347-1558. Note. Calais a été occupé par les Anglais au commencement de la guerre actuelle. Ils ont peu à peu renforcé les fortifications de la ville du côté de la terre, transformé les forts, dont l'accès serait interdit aux indigènes, remplacer le matériel d'artillerie français par des canons anglais, ce qui a provoqué la stupeur de leurs alliés français. On connaît en outre le mot de Lord Balfour à Churchill : tant que nous occupons Calais, nous pouvons nous consoler de la perte d'Anvers. De fait, Calais est passé, dit-on, presque complètement sous la domination anglaise. L'inquiétude causée en France par tous ces agissements a eu son écho le 21 mars 1916 dans une interpellation du député de Calais à la Chambre. La conquête de Calais par Édouard III d'Angleterre. Calais, un des ports principaux de la côte septentrionale de France, séparé seulement de l'Angleterre par le canal fort étroit de la Manche, doit son importance historique à la guerre de Cent Ans commencée par le roi Édouard III. 1327-1377, pour revendiquer la couronne de France comme petit-fils de Philippe le Bel. Après la mort du roi Charles IV, en 1328, Édouard III s'allia dans ce but avec les comtes d'Artois, de Hainaut, de Gueldre, de Juliers, avec le duc de Brabant, avec les villes de Flandre, finalement avec son beau-frère, l'empereur d'Allemagne, Louis de Bavière. Comme signe de ses revendications, il prit le titre et les armes du roi de France, conservés malgré la France par ses successeurs jusqu'au commencement du XIXe siècle. Le roi d'Angleterre ne se laissa arrêter dans ses prétentions ni par l'obstacle de la loi salique, ni par le serment de fidélité et d'hommage qu'il avait prêté à son cousin Philippe VI de Valois en sa qualité de roi de France et de suzerain du duché de Guyenne, alors fief français. Les hostilités avaient commencé en 1337, mais la grande bataille décisive n'eut lieu à Crécy que le 26 août 1346. Édouard III y remporta une brillante victoire, mémorable à maints égards. Il pensa alors à fortifier et affermir ses conquêtes. Ses alliés les plus sûrs avaient été les villes de Flandre, acheteuses principales des laines anglaises. La route conduisant vers elles passait par Calais. Calais servait en outre de repère aux pirates qui dévastaient la côte méridionale d'Angleterre, mais Calais, c'était aussi une porte ouverte sur la France. Édouard III se vit donc systématiquement à l'œuvre en vue de s'emparer de cette place. À la fin du mois d'août 1346, l'armée anglaise faisait son apparition devant la ville sans méfiance. Le roi d'Angleterre adressa au gouverneur de Calais, Jean de Vienne, vigoureux chevalier et bourguignon, la sommation impérieuse de lui remettre la place, à défaut de quoi la garnison et les habitants seraient passés au fil de l'épée. Jean de Vienne n'avait qu'une réponse à faire à pareille injonction. Il ne connaissait pas d'autre maître de la place que celui que le lui avait confié, et il était résolu de vivre et mourir à son service. Édouard III tenta alors un assaut contre la ville du côté des dunes. L'attaque fut brillamment repoussée. Le roi d'Angleterre dut recourir alors à un autre moyen, moins chevaleresque à la vérité, celui de réduire la ville par la famine, si longtemps que la résistance put d'ailleurs durer. Il ne s'en partirait par hiver ni par été, s'il aurait à sa volonté comme forte qu'elle fût. Tous les préparatifs furent faits en vue d'un long siège. Le roi fit établir devant Calais, pour son armée, un camp de baraques en bois, formant une véritable ville. Sa distribution, l'organisation du ravitaillement, l'habillement et l'équipement des troupes anglaises excitèrent en France la curiosité et même l'admiration. Il y avait marché le mercredi et le samedi, et la nouvelle cité fut appelée Villeneuve-la-Hardie. Ainsi, Édouard III pouvait se maintenir et attendre tout en ménageant ses troupes et ses munitions. Il établit par mer un blocus rigoureux avec une flotte formée de la majeure partie des 737 navires qu'il avait fait recenser sur les côtes anglaises. Jean de Vienne savait quel sort l'attendait finalement, lui et les habitants de la ville. Il publia une ordonnance enjoignant à tous les pauvres gens de quitter la ville sans délai. Un mercredi matin, la porte de Calais conduisant vers le camp anglais s'ouvrit toute grande et 1 700 personnes, femmes et enfants, pour la plupart, traversèrent silencieusement le camp ennemi, toutes en blanches chemises et portant gonfanons de monastère en signe d'humilité. Cet étrange et triste cortège excita l'étonnement d'Édouard III, qui demanda pourquoi ils sortaient. Ils répondirent qu'ils n'avaient de quoi vivre. Le roi, saisi d'un mouvement de pitié, leur fit donner à manger et les laissa passer. Si grande que fut la vaillance des assiégés, si nombreuses que fussent les sorties tentées de Calais même, les attaques contre les Anglais et le roi exécutés des forteresses des Marches, des comtés de Guînes, d'Artois, de Boulogne et celles entreprises sur mer par des Normands, des Génois et autres marins au service de la France, le sort de Calais était irrévocablement scellé. Sous la pression de l'impitoyable blocus établi par les assiégeants, les habitants avaient tout mangé, jusqu'aux chiens, aux chats et aux chevaux, pour apaiser leur faim. Dans son appel désespéré à Philippe VI, Jean de Vienne, héroïque et fidèle à son roi, s'exprimait ainsi: Il n'y a rien qui ne soit tout mangé, et les chiens, et les chats, et les chevaux. Nous y serons hors de la ville, tout sachant, car nous avons mieux mourir aux champs honorablement que manger l'un l'autre. Cet appel se terminait par une demande de prompte assistance pour délivrer la place. Le roi Philippe VI de France, dans cette extrémité pressante, essaya de se porter avec une armée au secours de ses sujets, trop menacés. Après des préparatifs d'une incroyable lenteur, il s'en vint d'Arras vers la fin de juillet pour camper sur la hauteur de Sangatte, entre Calais et Vissant. Il s'établit là pour trouver un chemin vers Calais et un moyen d'attaquer les Anglais. Mais ceux-ci avaient eu le temps de se retrancher si habilement qu'il n'en resta plus d'autre voie aux Français que les marais absolument infranchissables. En outre, une forte armée accourait des Flandres pour soutenir les Anglais. Édouard III, sommé d'accepter la bataille à un endroit convenable, refusa, en prétextant les grandes dépenses et les frais, très sensibles en raison de ses dettes constantes, que lui occasionnait son séjour devant la place depuis 1 an. Il était sûr d'ailleurs de s'emparer bientôt de Calais. Philippe VI n'osa pas attaquer les Anglais dans leur position en quelque sorte inexpugnable pour ne pas s'exposer à un terrible désastre comme à Crécy. Des négociations entreprises d'Avignon par le pape Clément VI échouèrent, parce que l'Anglais exigeait avant tout autre chose, la reddition de Calais. Le seul résultat de l'entremise pontificale fit de permettre au roi Édouard de se fortifier encore davantage. Philippe VI, découragé, renonça à continuer la campagne. Le 2 août 1347, il se retira sur Amiens et il licencia son armée. Les vaillants Calaisiens étaient abandonnés à leur sort. La famine croissante les obligea à implorer la grâce de l'impitoyable ennemi installé devant leurs portes. À la demande pour la garnison et pour le peuple de Calais de sortir de la ville avec tout ce qui s'y trouvait, le roi d'Angleterre fit d'abord répondre par l'exigence d'une capitulation sans condition. Sur les représentations courageuses d'un de ses fidèles, Gauthier de Masny, Édouard III modifia ses prétentions. Il se contenta d'exiger que 6 des bourgeois les plus notables de Calais, nu-pieds et nu-chef en leur linge drap tant seulement, les hards au col, viennent ici et apportent les clés de la ville et du château en leurs mains. Et de ce, dit-il, je ferai ma volonté. Et le demeurant des hommes de la ville, je prendrai à merci. Jean de Vienne vint rapporter ces dures conditions au peuple réuni. Tous se mirent à crier et à pleurer jusqu'au moment où, d'après la chronique de Jean Froissart, le plus riche bourgeois de la ville, Eustache de Saint-Pierre, se déclara prêt à donner sa vie pour le salut de ses concitoyens. Pendant que plusieurs hommes et femmes se jetaient à ses pieds, tendrement pleurant, d'autres bourgeois de la ville suivirent son exemple. Les 6 bourgeois, dans la tenue exigée, furent confiés à Gauthier de Masny, qui les accompagna sous sa sauvegarde depuis la porte de la ville jusqu'au camp anglais. Édouard III, entouré de ses chevaliers et de toute sa cour, attendait les victimes de sa haine et de sa vengeance qui allaient expier les désagréments et les peines des 11 mois du siège et payer pour l'attitude énergique des habitants fidèles à leur roi et à leur pays. La scène dramatique qui se déroula alors est une des plus célèbres dans l'histoire du Moyen-Âge. D'émouvants récits, de saisissantes peintures et sculptures l'ont immortalisé à jamais. Les bourgeois choisis, au nombre desquels, contrairement au récit de Froissart, se seraient trouvés également le gouverneur Jean de Vienne et le fameux Arnoul d'Audrehem, avec d'autres chevaliers d'Artois et de Picardie, implorèrent la pitié d'Édouard, firent appel à sa générosité royale. Tous les assistants pleuraient de compassion. Quant au roi, il se trouvait tout quoi. Car il avait le cœur si dur et si enfelonné de grands courroux qu'il ne put parler. Il ordonna l'exécution immédiate des otages. Alors Gauthier de Masny, élevant de nouveau la voix, voulut mettre son maître en garde contre une cruauté sans pareille, uniquement capable de ternir sa réputation. Ce fut en vain. Le roi, aveuglé par son désir de vengeance, renouvela son ordre barbare en faisant bander le bourreau. Même les supplications de son fils, héritier de la couronne, demeurèrent sans effet. En ce moment de désolation générale, la reine, Philippe, fille du comte Guillaume de Hainaut, tenta un suprême effort. Bien que durement enceinte, elle vint se jeter aux pieds d'Édouard et le supplia en pleurant de lui accorder la vie des 6 bourgeois. « Depuis que je repassais la mer en grand péril, je ne vous ai rien requis ni rien demandé. Vous veuillez, de ces 6 hommes, veuillez merci. » Ces paroles émurent enfin le cœur du roi qui répondit « Ah, dame, j'aimerais mieux que vous fussiez autre part qu'ici. Me priez si ardemment que j'ose pas vous refuser. Eh bien que je le fasse malgré moi, tenez, je vous les donne, faites-en ce que vous voudrez. » La bonne dame répondit « Monseigneur, grand merci. » Alors elle emmena les 6 bourgeois avec elle dans sa chambre, les revêtit, leur donna à dîner à leur aise, puis elle distribua 6 nobles à chacun d'eux et les fit conduire hors de l'armée en toute sûreté. Édouard III était maintenant maître de Calais et le siège de cette vaillante cité avait duré 11 mois. Du 3 septembre 1346 au 4 août 1347. Le roi d'Angleterre venait de remporter incontestablement le plus grand et le plus important succès de son règne. C'était en effet le plus éclatant triomphe de la politique anglaise pour une durée de plusieurs siècles. Il s'agissait là d'une conquête durable, d'une base d'opération permanente pour la soumission du reste de la France. Calais devait demeurer pour toujours partie intégrante de l'Empire britannique. Le vainqueur prit ses mesures en conséquence. Ce fut, après la livraison des armes, l'exode de toute une population. Jean de Vienne, Arnoul d'Audrehem, d'autres chevaliers et écuyers, ainsi que de nombreux bourgeois, furent envoyés prisonniers en Angleterre dans l'espoir d'une rançon aussi forte que possible. Édouard III fit son entrée dans la ville déserte, à grand foison de Ménestrandi. Il donna au château de splendides fêtes à ses chevaliers et aux bourgeois de Flandre. C'était là une cruelle insulte aux souffrances endurées par les héroïques défenseurs de Calais. Le vainqueur distribua les plus beaux hôtels de la ville à ses chevaliers, parmi lesquels Gautier de Masny. Le port fut dégagé. Enfin, des bourgeois furent amenés des principales villes d'Angleterre pour peupler la cité arrachée à la France. Quelque cruelle que puisse paraître la mesure qui fut prise par Édouard III, elle était cependant nécessaire. Et s'il avait agi ainsi, nul doute que la ville ne fût bientôt retombée au pouvoir de Philippe VI. Jamais les patriotiques bourgeois de Calais ne seraient devenus anglais. Ils avaient donné trop de preuves de leur attachement à la couronne de France pour que le roi d'Angleterre pût exiger d'eux un serment qui eût été rompu aussitôt que prêté. Les habitants, confiants dans les dires de Gautier de Masny, s'étaient figuré leur destin moins rigoureux. Philippe VI tint à honneur d'assurer le sort des infortunés bourgeois de Calais. Un édit royal, daté d'Anvers, le 10 août 1347, leur octroyait le droit d'habiter en France là où bon leur semblerait, d'y exercer tel métier à leur guise avec exemption de péage et d'impôts. Un mois plus tard, le 8 septembre, le roi de France ordonnait que toutes les forfaitures et biens, meubles et héritages que nous aurons et chérons en notre royaume pour quelque cause que ce soit, soient mis et tenus en notre main, pour être répartis entre ces malheureux. Enfin que, dorénavant, tous les offices qui échoueront ou appartenant à donner par nous et le duc de Normandie et en la terre du duc d'Orléans, lesquels offices les dits bourgeois et habitants, jadis bourgeois de Calais, voudront accepter et avoir, leur soient baillés, donnés et délivrés. Deuxième partie. Effort des Français pour reconquérir Calais. La ville de Calais, devenue Calice, ne tarda pas à déchoir de son importance commerciale par suite de l'émigration en France des riches marchands qui l'habitaient. La perte de cette place importante était vivement ressentie par les Français pour qui elle constituait une des clés de la France. On était en droit de se demander si le pays tout entier ne subirait pas un jour le sort de Calais. Édouard III manifestait déjà ses intentions de conquête en prenant le titre de roi de France. Dès 1349, une tentative fut faite pour reprendre la ville. Le gouverneur de Saint-Omer, Geoffroy de Chanzy, par la promesse de 20 000 ducats au commandant en chef des galères anglaises stationnées dans le port de Calais, Amerigo de Pavie, incita celui-ci à la trahison. Mais le roi d'Angleterre eut vent du complot. Il fit mander à Londres l'Italien sans méfiance et lui dit d'abord: Je t'ai donné en garde la chose que j'aime le plus au monde, après ma femme et mes enfants, le château et la ville de Calais. Puis il lui dévoila la connaissance qu'il avait de ses projets, en lui promettant le pardon à condition qu'il se résolût à jouer double jeu. L'Italien acquiesça. Il arriva ainsi que les Français, introduits nuitamment dans le château de Calais, se trouvèrent tout à coup en présence de forces anglaises supérieures auxquelles ils durent céder. Calais devint la place d'armes principale des Anglais pour leur campagne ultérieure contre la France. Les années 1355, 1359, 1372, 1380, 1390, 1475, etc. La garnison anglaise était un fléau pour les populations des environs. Elle inquiétait le pays par des courses fréquentes et le ravageait impitoyablement. Le traité de Brétigny, 8 mars 1360, assura définitivement à l'Angleterre la possession de la ville et de ses alentours. Cette possession fut confirmée le 24 octobre de la même année à l'occasion d'une entrevue d'Édouard avec Jean le Bon, roi de France depuis 1350. Celui-ci dut payer pour sa présence à Calais une indemnité de séjour. Et rien ne sembla plus naturel, du moins aux yeux des conquérants anglais. De même que les habitants de La Rochelle, on disait également dans les autres régions annexées à la couronne britannique, nous avouerons les Anglais des lèvres, mais liqueur ne s'en mourra jamais. Un autre dicton s'exprimait en termes plus énergiques encore, et les bourgeois y déclaraient qu'ils avaient plus cher à être taillés tous les ans de moitié de leur semence qu'ils fussent aux mains des Anglais. Malgré les traités de Brétigny et de Calais, les Français renouvelèrent leurs efforts pour rentrer en possession de la ville si honteusement perdue, soit par des efforts pacifiques, soit par de hardis coups de main. Mais ce fut chaque fois sans succès. Un peu avant la mort d'Édouard III, en 1377, le roi de France, Charles V, lui fit offrir 400 villes ou châteaux et 300 forteresses dans la Guyenne, ou bien, à son choix, tout le Quercy, et de Montauban en échange les seules villes de Calais et de Guînes. Cette offre essuya un refus méprisant. Des tentatives pour reprendre Calais entreprises du côté de la terre et du côté de la mer en 1377, en particulier par l'amiral Jean de Vienne, neveu du vaillant défenseur de Calais, et par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, ne reçurent qu'un semblant d'exécution. La réunion politique de Calais en Angleterre, consommée sous Édouard III, fut suivi sous le règne de Richard II, son successeur, de la réunion ecclésiastique 1379. Le pape Urbain VI rattacha Calais à l'archevêché de Canterbury, ainsi que le territoire de Picardie, devenu anglais et qui faisait jusque-là partie de l'évêché de Thérouanne. Dans les années 1348, 63 et 76, afin de détourner de la France les intérêts des habitants de Calais et de les attacher à l'Angleterre, Édouard III, qui avait déjà érigé dans la ville un hôtel des Monnaies, y transféra provisoirement d'abord, puis définitivement, le siège de l'étape pour le marché anglais des laines, établi jusqu'alors à Middleburg, en Zélande. Dès 1382, on projeta de rendre aux Flandres leur ancien privilège afin de gagner à l'alliance anglaise leurs habitants alors en révolte avec Philippe d'Arteveld à leur tête. Mais ce projet ne fut pas mis à exécution. Les communes flamandes, laissées complètement en détresse par les Anglais, essuyèrent de la part des Français une défaite totale à la bataille de Rosebecque, et préférèrent s'entendre avec le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, en raison de leur expérience de l'alliance anglaise. Quant à l'alliance anglaise, la preuve était faite. Il n'y avait pas à compter sur elle. Les Anglais arrivaient toujours trop tard et rebardaient trop tôt. L'aversion et le mécontentement de la chevalerie française contre la prépondérance anglaise se manifestèrent sous différentes formes. Sous l'égide du roi Charles VI, trois des plus valeureux chevaliers français, Jean le Maingre, frère du maréchal de Boucicaut, Regnault de Roye et le sire de Saint-Pie, provoquèrent ce que l'Angleterre avait de plus courageux et de plus adroit aux armes à une série de tournois de 30 jours à Saint-Aigle-Vert, aux environs de Calais. Un grand nombre des chevaliers anglais se rassemblèrent alors à Calais. Le frère du roi d'Angleterre, Jean de Hollande, se distingua particulièrement dans ces luttes. Mais les Français surent toutefois maintenir constamment leur réputation de haute valeur. Et au bout des 5 premiers jours, tous les Anglais retournèrent chez eux. Les chevaliers français restèrent encore sous leur tente jusqu'à ce que les 30 jours furent écoulés, attendant en vain l'arrivée de nouveaux champions d'outre-mer. La cause principale de l'animosité des Français éclata plus directement et plus ouvertement encore lors des pourparlers de paix, si riches en péripéties variées, qui furent entamées les années suivantes à Amiens, 1392 par exemple. Les Français consentaient bien à ce que les Anglais occupassent l'Aquitaine et d'autres parties de la France, mais Calais, oh, ils demandaient, si l'on leur rendit, au moins qu'on détruisît Calais, de telle sorte que nul n'y pût habiter par la suite. Les Anglais ne pouvaient traiter sur ces bases. Car vous devez savoir, dit Froissart, que Calais est la ville au monde que la communauté d'Angleterre aime le mieux. Car tant comme ils seront seigneurs de Calais, ils disent ainsi qu'ils portent les clés du royaume de France à leur ceinture. Le duc de Lancaster se refusa à toute négociation au sujet de Calais, en déclarant qu'il ne parlerait même point de la clause relative à cette ville, car, dit-il, si nous en parlions, nous saurions la haine et l'indignation de l'ingénieur de la plus grande partie du royaume d'Angleterre. Le roi Richard II, qui devait épouser quelques années plus tard la fille de Charles VI, Isabelle, alors âgée de 9 ans, fit alors en quelque sorte, pour braver les Français, exécuter d'importants embellissements de Calais et des travaux d'amélioration aux fortifications de la ville. En 1393 eurent lieu à Leulingen des Rouen-Conférences, dans lesquels les Français offrirent d'abandonner les comtés du Limousin, de l'Agenois, du Quercy, du Rouergue et du Périgord, à la condition que les Anglais évacueraient Calais. Un pareil équivalent, représentant toute une partie de la France méridionale, avait lieu d'étonner. Malgré cela, les ducs de Lancaster et de Gloucester déclarèrent que Calais serait la dernière ville que la couronne d'Angleterre tiendrait. Calais, en effet, n'était point pour les Anglais une ville comme une autre, comme Bordeaux, par exemple, qui était purement et simplement l'héritage des rois. C'est une ville conquise par l'épée et le lieu où se résumait en quelque sorte, à leurs yeux, toute leur domination sur le continent. Afin de la garder plus sûrement, il n'y avait pas de trop grands sacrifices. Pour retenir Calais à l'Angleterre, les Anglais, c'est pas trop dire, s'enchaînaient à Calais. Le duc de Gloucester, dont il vient d'être question, périt étouffé entre deux matelas par ordre de Richard II, sous prétexte d'avoir cherché à insinuer aux Anglais que le roi voulait rendre Calais à son beau-père Charles VI. Et le sentiment national français, malgré toutes les misères d'une guerre qui, sauf quelques courtes interruptions durées depuis près de 30 ans déjà, le peuple ne voulait entendre parler de paix à aucun prix, tant que Calais ne serait pas rendu. Les mots paix n'ayez déjà s'ils ne rendent Calais forment le refrain d'une chanson de 6 strophes composée vers 1394 par Eustache Deschamps, interprète en cela de la conscience populaire indignée. Chanson alors partout répandue en France. Calais devait continuer à jouer un rôle important pendant la guerre de 100 ans. La ville eut à subir encore un grand siège lors des combats qui terminèrent cette lutte. Les héroïques et merveilleux exploits de la Pucelle d'Orléans avaient fait perdre aux Anglais toutes leurs conquêtes et il ne restait plus que Calais. Le duc Philippe de Bourgogne se présenta devant la place en 1436. Son père, Jean sans peur, avait déjà manifesté en 1406 l'intention d'attaquer Calais, mais il avait dû renoncer à son dessein faute d'argent. Le duc Philippe était soutenu alors par les subsides des riches cités flamandes. Le danger réveilla l'énergie des Anglais. Leurs dissensions intestines leur avaient fait perdre Paris, mais il s'agissait de conserver Calais, coûte que coûte. Le roi Henri VI, ceux de son conseil et tous les trois États d'Angleterre eussent laissé perdre toutes les conquêtes qu'ils avaient faites depuis 30 ans en France, plutôt que la ville de Calais. L'Angleterre trouva pour la défendre des ressources inespérées. Déjà, les petites places fortes environnantes, Wham, Marc, Sangat, avaient été enlevées, mais la flotte hollandaise et zélandaise ne réussit pas à investir Calais du côté de la mer. Les Flamands, désespérants du succès de l'entreprise, ne tardèrent pas à retourner promptement dans leur foyer. Les Anglais les y suivirent et procédèrent à un pillage en règle de la Flandre orientale et de l'Artois. Et par un calcul d'un raffinement cruel, ils ramenèrent avec eux plus de 5 000 petits-enfants afin d'extorquer à leurs malheureux parents une riche rançon. 2 ans plus tard, en 1438, le duc de Bourgogne renouvela sa tentative pour reprendre Calais. Il espérait qu'en rompant les digues, il pourrait inonder la ville et contraindre les Anglais à l'abandonner. Mais les fortifications de Calais du côté de la terre furent remises en meilleur état de défense et étendues, et les premières grandes digues du port furent élevées en 1444. En 1451, le roi Charles VII put faire frapper une médaille commémorative de la délivrance de la France du joug des Anglais, mais il lui fut impossible d'y éviter l'aveu que Calais était encore aux mains de l'étranger. Quand on demanda au roi cette année-là si la guerre cesserait jamais, il aurait répondu, dit-on, « Cela dépend des Anglais, qui occupent injustement ce qui m'appartient. Au plaisir de Dieu, j'entends le leur reprendre. » Le roi Louis XI, espérant pouvoir de cette façon rentrer pour toujours en possession de Calais, avait avancé à sa cousine Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre, une somme de 200 000 livres par le traité de Chinon, et mis à sa disposition une petite armée pour lui permettre de faire valoir ses droits contre la maison d'York dans la guerre civile des Deux Roses, à la condition toutefois que la ville et la citadelle de Calais lui serait remise en gage par le roi son époux. Et ce plan échoua. Pendant quelques années, Warwick, le faiseur de roi, établit à Calais sa résidence par opposition à la maison royale anglaise de Lancaster. Ses fonctions de gouverneur de la ville lui procuraient d'immenses revenus. Il fut le premier à revendiquer pour le pavillon anglais le salut des autres marines, comme si la mer baignant la côte de France n'eût été qu'un domaine de l'Angleterre. La haine mortelle des Français contre les Anglais se manifesta en 1470 à la nouvelle que le roi Louis XI formait le projet de déclarer la guerre à ces derniers. Philippe de Crèvecœur, devenu dans la suite maréchal d'Esquerde, s'écria alors « Oh, je consentirais volontiers à passer 2 ans aux enfers pour avoir le plaisir de chasser les Anglais de Calais !» Par une ironie singulière, quand Édouard IV débarqua avec une armée à Calais le 5 juillet 1475, il somma le roi Louis XI de lui rendre son royaume de France afin qu'il pût remettre l'Église, les nobles et le peuple en leur liberté ancienne et les ôter des grandes charges et des travaux où les tenait le sérénissime prince Louis de France. L'historien Henri Martin reproche à Charles VIII, fils et successeur de Louis XI, sa passion d'aventures lointaines et de romanesques entreprises, son expédition en Italie. Il eût pu, grâce à la réunion de la Bretagne, donner à la France une grande marine et diriger les forces nationales vers la conquête de Calais. L'idée déjà ancienne de recouvrer pacifiquement Calais au moyen de négociations fut reprise par François Ier de 1516 à 1518, mais sans plus de succès que ses prédécesseurs. Calais est une de ces positions qui se reprennent et ne s'achètent pas. L'Angleterre tout entière se fut soulevée contre la pensée d'abandonner ce dernier reste de ses conquêtes. Néanmoins, Calais, comme souvent déjà depuis sa conquête par les Anglais, fut de nouveau, pendant les longs règnes de François Ier et d'Henri VIII, le théâtre de solennelles entrevues des monarques des deux royaumes rivaux. Le faste déployé à cette occasion n'eut d'égal que l'inévitable antagonisme caché sous ces bruyantes démonstrations d'amitié. Et dès 1540, une guerre éclatait entre les deux rois. Édouard VI, fils d'Henri VIII et son successeur, d'ailleurs pour peu de temps, fit renforcer les fortifications déjà sauvées du délabrement par son père et augmenter les réserves de munitions en prévision d'attaques éventuelles. Celles-ci se produisirent en effet lors de la guerre entre Philippe II d'Espagne, époux de Marie d'Angleterre, et le roi de France Henri II. Le plan d'un coup de main contre la ville, bien fortifiée et considérée comme presque imprenable à cause de ses vastes marais, aurait été inspiré par l'amiral Gaspard de Coligny. Il fut mis à exécution avec une précision presque mathématique en 1557-58 par le duc François de Guise, élevé par le roi de France à la dignité de lieutenant général du royaume et placé à la tête d'une armée de 50 000 hommes. Le 4 janvier 1558, la citadelle capitulait et le 6, la ville de Calais elle-même, cette ville si française, tombait au pouvoir du duc. Deux jours plus tard, Guinness, la dernière place des Anglais en France, subissait le même sort, et l'occupation du sol français par ses ennemis séculaires prenait définitivement fin. Calais avait été durant deux siècles un frein qui bridait la France, une aire de vautours d'où l'Anglais se lançait à volonté sur nos provinces du Nord, un formidable point d'appui et de diversion en ferveur de quiconque attaquait notre frontière. L'arme la plus dangereuse de nos aïeux ennemis leur était enfin arrachée. L'historien des ducs de Guise, M. Forneron, s'exprime ainsi au sujet du rôle de Calais pendant l'occupation anglaise qui avait duré 211 ans. Mutilation pour notre territoire, menace constante d'un débarquement. Cette possession anglaise était pour nous une humiliation et un danger. Guise était devenu d'un coup le héros populaire de la France et lui-même s'étonnait tout le premier de l'incroyable rapidité de son succès. Là où Édouard III, avec son terrible auxiliaire La Faim, avait mis 11 mois à triompher, François de Guise, en plein hiver, terminait tout en une semaine à peine. Les conditions de la capitulation imposées par Guise stipulaient que les habitants ne pourraient retirer où bon le semblait, en France, en Angleterre ou en Flandre, sauf 50, tels qu'il plairait au duc de retenir, le gouverneur y compris. La garnison devait se retirer en Angleterre. Ces conditions furent strictement observées, et autrement que ne l'avaient été celles stipulées par les Anglais lors de la conquête. La plupart des habitants trouvèrent un refuge en Angleterre.